Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflu, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
C'est terrible de ne pas avoir pu travailler pendant ces derniers mois et en même temps, ce qui me concerne, c'est super de ne pas avoir pu parce que oui, il y a eu un temps à la réflexion que je n'ai pas quand je suis dans mon lieu 14 heures par jour, que quand je ne suis pas dans le lieu, y a tout un tas d'autres choses dont il faut que je m'occupe. Et donc voilà, de prendre du recul sur tout ça. Et de pouvoir, oui, continuer à travailler, mais différemment.
La crise du Covid-19 a chamboulé le monde de la cuisine. Certains restaurants n'ont jamais rouvert, certains chefs ont abandonné leur tablier, mais parmi ceux qui restent, beaucoup ont pris le temps de réfléchir durant la pause imposée par les mesures sanitaires. Du temps qui leur ont permis de réinventer la manière dont ils voulaient cuisiner et de s'ouvrir à de nouvelles pratiques. Je suis Garance Munoz et j'ai rencontré trois de ces chefs qui bousculent leurs habitudes. Bienvenue dans cet épisode bonus d'À Poil.
Là, ce qui change avec le Covid, c'est donc plus, oui, une réflexion au niveau personnel qu'au niveau professionnel, puisqu'encore une fois, j'ai pas du tout envie de changer de métier.
Julie Côte, chef et propriétaire du restaurant Dame Jeanne à Paris, veut ouvrir ses cuisines pour accueillir des chefs résidents.
En revanche, j'ai envie de pouvoir le faire, encore une fois, un peu différemment. Et donc pour ça, il faut réfléchir à comment, et particulièrement quand on a un lieu et qu'on n'a pas envie de s'en séparer, puisque moi, je l'aime, ce lieu. Donc du coup, j'ai passé là quelques mois à réfléchir et à me dire, alors, ok, quelles sont les solutions? Et je me suis dit que peut-être qu'il y avait plein de gens qui travaillaient dans la restauration et qui n'avaient pas de lieu et qui avaient potentiellement envie de faire l'expérience d'en avoir un, que ce soit pour une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, voire un petit peu plus. Et donc je me suis dit que Madame Jeanne se prêtait certainement bien à cette expérience-là, puisque c'est un tout petit format, c'est une toute petite maison, donc qui permet de se mettre en place assez rapidement. Et en même temps avec une prise de risque qui est totalement mesurée pour tout le monde. J'ai envie que chacun puisse arriver ici avec son identité et sa règle du jeu. Et ce qui, moi, par ailleurs, va me permettre de prendre un peu le large et de réfléchir et de mettre en place d'autres projets.
Les équipes resteraient en place et le cuisinier qui change. J'avais vu, tu cherchais aussi un sommelier ou...
Oui, en fait, l'idée, c'est des duos. C'est un duo chef et sommelier, parce que c'est un lieu qui se prête vraiment à travailler à deux. Et puis aussi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir à une carte ensemble, que ce soit ce qui se passe dans la cuisine ou ce qui va se passer dans le verre, et à ce qui est, oui, que ce soit une véritable collaboration et pas justement une résidence de chef, parce que pas que ce soit pas intéressant, mais j'avais envie de pousser l'expérience est un peu plus loin, en fait, et je trouve aussi que souvent les métiers de la salle sont peut-être un peu moins mis en valeur que le métier de la cuisine, et je trouve ça parfaitement dommage parce qu'il y a des gens qui sont vraiment brillants et tellement réjouissants à observer dans une salle et à écouter et à prendre le conseil et à juste partir en balade, en fait, parce que c'est quand même les gens de la salle qui emmènent et qui rythment, et oui, et c'est donc Donc à partir de là, je me suis dit que oui, c'était quand même important, en tout cas pour le lieu qu'est Dame Jeanne, hein, peut-être pas pour d'autres, mais pour le lieu qu'est Dame Jeanne, où en fait une énorme partie du travail se passe au contact des gens, parce que c'est aussi un endroit dans lequel moi, par exemple, j'ai décidé à ce qu'il n'y ait pas de carte, ni de ce qu'on mange, ni de ce qu'on boit, parce qu'on est là justement pour causer aux gens, pour passer un moment avec eux, pour les guider, et pour qu'ils soient, ils se sentent pris en charge totalement en fait, et qu'ils aient juste à profiter leur moment dans l'endroit.
Et toi, du coup, tu veux plus du tout toucher à la cuisine, ou s'il y a besoin de temps en temps, tu seras encore là?
Alors moi, j'ai jamais eu autant envie de toucher à la cuisine, mais pas nécessairement celle de Dame Jeanne. Enfin, je pense que je me laisserai la liberté de ressauter dans le lieu de manière ponctuelle. D'une, s'il y a un moment où il n'y a pas de résident, puis peut-être de deux, s'il y a un moment où j'en ai vraiment envie parce que le lieu et ma clientèle me manquent. Mais non, sinon là, l'idée pour l'année, voire les dans l'idéal, les deux années à venir, ça va être de m'autoriser à vraiment aller cuisiner à droite et à gauche le plus possible. Et puis, il y a un autre projet qui sera cuisiner dans un lieu fixe, mais ça sera pas un restaurant.
Qu'est-ce qui t'a donné envie à ce point de prendre le large? Enfin, ça a été quoi ta réflexion pendant cette période où tu cuisinais pas puisque les restaurants étaient fermés?
Alors moi, j'avais commencé un petit peu à cuisiner à droite et à gauche avant le Covid. C'est hyper addictif en fait. Voilà, c'est super intéressant et je pense d'autant plus pour une personne comme moi qui est autodidacte, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment comme ça que j'apprenais le plus vite, en étant au contact d'autres lieux, d'autres matériels, d'autres équipes, d'autres produits, et que c'était hyper nourrissant et que j'avais vraiment, enfin c'est un besoin intrinsèque. Et que par ailleurs, j'aime être dans la cuisine de Dame Jeanne et j'aime cuisiner pour les gens qui visitent Dame Jeanne. Mais il y a comme un à bout de souffle, en fait. Et donc, du coup, comme j'ai pas du tout envie de ressentir ça dans ce lieu, parce que j'en serais vraiment trop triste, je me suis dit, OK, donc comment je fais là pour continuer à avancer, à explorer, et justement, pouvoir être aussi possible de replonger dans le lieu de temps en temps avec plein d'énergie et plein d'idées et plein de choses à faire goûter et plein de joie. Et je pense que c'est important. Et puis bon, voilà, encore une fois, moi j'ai ouvert le lieu il y a 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup au quotidien. Et moi, le quotidien ici, c'est 14 heures par jour, quoi. Donc ouais, 7 ans d'autant d'heures par jour. Enfin, et puis plus particulièrement ces 4 dernières années, c'est beaucoup. C'est beaucoup et en fait le constat est aussi parce que je suis toute seule à m'occuper du lieu, il faut pouvoir sortir de ces murs en fait. Et je pense qu'on est vraiment très très nombreux à ressentir ça aujourd'hui et très très nombreux à le ressentir dans Paris encore plus. Voilà, parce que je pense qu'il y a aussi la question de la ville dans laquelle on est, hein. c'est pas juste le restaurant dans lequel on, c'est pas juste le lieu dans lequel on est. Je pense que c'est aussi attaché à un mode de vie plus général en fait, plus large. Ouais.
Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, que en fait avec le Covid, vous avez un peu tous pris du temps pour vous et avez réalisé que le rythme de cuisine, c'est un rythme, enfin plus que très demandant, c'est parfois trop quoi.
C'est parfaitement chronophage, c'est certain. Et donc la question, c'est comment on peut l'envisager différemment. Et donc pour moi, aujourd'hui, ça va se manifester par aller justement cuisiner de manière ponctuelle à droite et à gauche et pouvoir être plus libre d'organiser mon emploi du temps, ce qui me tient vraiment à cœur. Et d'autant plus que là, après tous ces mois sans activité, moi j'ai une fille qui a 12 ans et demi. Et du coup, là, je viens de passer une année avec elle à être super disponible, enfin bien plus que je ne le suis d'habitude. Et ça m'a beaucoup plu, et évidemment. Et pas que je m'occupe pas d'elle en règle générale, mais là, le temps était là, en fait, voilà. Et moi, j'aime emmener ma fille à l'école, j'aime aller la chercher à l'école, j'aime tout ça. Et du coup, j'ai envie de pouvoir continuer à vivre comme ça. Donc voilà, c'est même pas faire des, c'est, Il ne s'agit même pas de faire des compromis, il s'agit de réorganiser l'entier de la vie et de trouver les zones de compatibilité. Et donc oui, c'est terrible de ne pas avoir pu travailler pendant ces derniers mois. Et en même temps, ce qui me concerne, c'est super de ne pas avoir pu. Parce que oui, il y a eu un temps à la réflexion que je n'ai pas quand je suis dans mon lieu 14 heures par jour. Que quand je ne suis pas dans le lieu, y a tout un tas d'autres choses dont il faut que je m'occupe. Et donc voilà, de prendre du recul sur tout ça. Et de pouvoir, oui, continuer à travailler, mais différemment.
Ça, c'est un constat que t'es pas la seule à avoir eu. Enfin, t'as l'impression autour des gens qui travaillent dans la restauration, c'est une réflexion un peu que vous avez tous eue.
Ah oui, je pense qu'on est très nombreux, et je sais que quand j'ai commencé à contacter des gens pour les résidences, justement, et que je leur ai dit que je mettais le lieu en résidence, les réactions ont été extrêmement positives, parce que, en tout cas, ce que je retiens des réponses, c'est oui, c'est l'avenir de la restauration. Et je suis assez d'accord. Après, c'est l'avenir de la restauration dès lors que les gens sont capables ou ont l'envie de mettre leur lieu à disposition. Et ça, je pense qu'il y a plein de restaurateurs qui le feront pas, mais parce que leur lieu s'y prête pas nécessairement, ou que eux sont trop attachés au lieu et sont bien dedans dans un quotidien. Mais oui, je pense qu'il va y avoir, oui, encore une fois, un gros changement de décor, en fait, c'est ce qui est super intéressant. Donc à suivre, puisque là on rouvre juste finalement, donc je pense que tout ça va mettre un peu de temps à quand même se mettre en place, enfin en tout cas être visible. Mais oui, moi je suis hyper curieuse là de ce qui va se passer dans l'année.
En tout cas, d'après toi, c'est un peu une nouvelle ère qui s'ouvre pour la cuisine.
Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout ça. Enfin, sans aucun doute. Et je pense que la sédentarisation va être quelque chose de complètement passé, en fait, et certainement tant mieux. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut être que positif pour tout le monde, autant pour les gens qui travaillent en restauration que pour les clients qui vont pouvoir avoir la chance certainement de goûter plus de choses et de goûter aussi différemment certainement.
J'ai acheté le restaurant il y a 3 ans et j'avais fait une partie gastro, une partie bar à vin.
Daniel Baratier, chef et propriétaire de l'Auberge sur les Bois à Annecy, a décidé de simplifier son offre.
Et avant la crise, donc c'était partie gastro, partie bar à vin. Et après la crise, c'est devenu un restaurant avec une seule formule proposée.
Qu'est-ce qui a changé exactement?
Ben en fait, j'ai arrêté la partie gastro pour trouver un équilibre en cuisine, parce que tu vois, j'étais à plus de 60 plats et on est descendu à 25 plats maintenant. J'ai simplifié l'offre parce que ça correspondait plus au restaurant, tu vois. Et donc j'ai arrêté les deux menus. J'avais un menu à 5 plats et un menu à 7 plats. Et donc j'ai arrêté les grands menus. J'ai réduit les horaires de service aussi. Le midi, dernière commande, c'est 13h15, et le soir, c'est 21h15. Et donc du coup maintenant, mes salariés, ils font 43 heures par semaine. On a trouvé un équilibre social, on va dire, parce que ils font moins d'heures, ils partent le soir, c'est 10h30 grand max. Ils ont le temps, s'ils veulent aller boire une bière, ils ont le temps d'aller boire une bière, ils ont le temps d'avoir voilà. On a une coupure l'après-midi de 2h30, 14h30, 17h. Et voilà, le matin on commence à 9h. Donc voilà, ça permet de faire des journées qui sont cohérentes et rentables à la fin de la semaine, parce qu'il y a plus d'heures sup.
Et à quel moment t'as décidé ça exactement?
Pendant le premier confinement, tu sais, on avait fait le premier confinement, on a eu la surprise de fermer donc le samedi soir comme tout le monde. Et moi, dans ma chambre froide, j'avais une demi-vache, 8 agneaux et 2 cochons, tu vois. J'ai dit bon, super. Et donc j'ai fait 1 mois d'emporter, j'ai fait boucher de quartier, j'ai fait plein de choses. Et puis c'est à ce moment-là, après il y a mon fils qui allait naître, donc on a arrêté et puis on s'est occupé un peu de la famille et puis. Moi, ça m'a permis de me recentrer, de discuter avec le comptable qu'on n'a jamais eu le temps de faire. On n'a jamais eu le temps de lever la tête et de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Comment on voit les choses? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc voilà, donc une grande discussion avec le comptable qui a fait que il m'a dit « Voilà, il faut qu'on réduise les charges, il faut qu'on réduise ça parce qu'on ne sait pas où on va, donc il faut qu'on réduise et qu'on réfléchisse à autre chose. » Donc voilà.
Et en quoi le modèle actuel là, que tu as décidé, il te correspond mieux à toi?
Parce que maintenant, il me correspond mieux, surtout à mes clients, en fait. À moi, il me correspond parce que moi, il me va très bien. J'ai simplifié l'offre. Tu vois, il y a 5-6 entrées, il y a entre 4 et 5 plats, il y a entre 2 et 3 plats partagés, et fromage et 4 desserts. Donc, tu vois, je suis à 25 plats. Moi, l'offre, elle change midi et soir. C'est suivant les arrivages des criés, c'est suivant les bêtes que je rentre, c'est suivant tout ça. Et puis, pour moi, c'est un produit, un poids, un prix donné. Donc, la gestion est beaucoup plus simple, tu vois.
Et est-ce que tes salariés aussi, ils y trouvent leur compte? Enfin, c'est une discussion que vous avez eue ensemble, j'imagine, quand tu en as.
Oui, c'est une discussion que j'ai eue avec mon second et que je lui ai dit, voilà, on va passer tout à la carte. Le seul inconvénient, c'est de passer tout à la carte, c'est que maintenant, t'as beaucoup de plats en direct, voilà. Après, les gens, ils font comme ils veulent. Et comme je disais, mes clients, c'est les plus heureux parce que maintenant, depuis l'année dernière, ils se disent, c'est un luxe de pouvoir choisir ce qu'on veut manger maintenant, tu vois. Mmh. Ils s'assoient, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent faire juste un plat, ils font juste un plat. Ils veulent juste prendre l'apéro, ils prennent l'apéro. C'est cette liberté-là qu'on a retrouvée et ils sont moins critiques, tu vois, par rapport à ça. Avant, quand t'as des menus surprises du chef, ils sont très critiques. Oui, j'aurais pas choisi ça. Ils partent pas dans la découverte ou alors ils sont dans la découverte, mais toi, ils sont critiques. Tandis que là, ils ont choisi un plat. Ils sont beaucoup moins critiques. Ils l'ont choisi, donc c'est leur propre choix. Donc, toi, dans le cheminement intellectuel, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, une sérénité. On a retrouvé une sérénité en point de vue des clients comme nous. On a retrouvé une sérénité et ce qui était essentiel pour nous, quoi.
Et est-ce que tu dirais que cette sérénité retrouvée, ces changements que tu as faits, la crise est complètement à l'origine de ces changements ou ça a accéléré quelque chose qui était déjà présent dans ta tête et que peut-être aurait eu lieu plus tard?
Non, ça a accéléré les choses parce que la crise nous a permis de nous arrêter en fait, tout simplement. Parce que tu vois, sinon nous, on est toujours la tête dedans, on fait nos trucs, tatati, tatata, on part en vacances, on revient. Tu vois, on est vraiment la tête baissée et on regarde pas ce qui se passe. Et là, ça nous, le fait de nous arrêter tous, même pas à penser, on n'est même pas en vacances, on n'est même pas en train de penser à faire des commandes, on n'a même pas à penser à faire une carte, on n'est même pas pensé à faire un plat, on pouvait penser à rien, juste d'attendre. Donc en fait, ça nous a permis de se dire, ça nous a permis de nous poser en fait et de réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc c'est sûr que c'est, on va dire que c'est grâce au Covid qu'on a pu relever la tête, se poser et réfléchir à un avenir meilleur.
Et qu'est-ce que tu espères pour la suite ?
Qu'on referme pas. C'est juste envie de ça. Non, la suite, ce que j'espère, c'est de continuer à faire ce qu'on fait. La suite du resto, non, c'est de toujours se réinventer, de toujours. Mais je changerai pour rien au monde le style de carte qu'on fait maintenant. Je ne changerai rien parce que c'est voilà, notre clientèle est faite là-dessus. Mais non, toujours se réinventer, toujours s'amuser et profiter. Et puis les changements qu'on a faits, moi je suis très content parce qu'on travaille encore de plus en plus, vraiment en direct avec ce qui se passe, avec les saisons, avec nos producteurs, avec nos pêcheurs. On est encore plus aguerri. Tu vois, s'il n'y a que 3 kilos de rouget, il n'y a que 3 kilos de rouget. Non, c'est vraiment cool. Franchement, moi je suis bien comme ça.
Alors, Napoli Gang, c'est notre service de livraison à domicile de Big Mama.
Tigrane Sédou, fondateur des restaurants italiens Big Mama, a lancé Napoli Gang, un service de livraison de pizza.
On est rentré dans ce métier un peu par contrainte, comme pas mal de restaurateurs depuis l'année dernière, et on y est totalement par fierté et par mission aujourd'hui. Pour la petite histoire, on a créé Napoli Gang les quelques semaines qui ont suivi le premier confinement, je reviens un peu plus d'un an en arrière. On était en avril 2020. On avait fermé tous nos restos depuis un gros mois à peu près, donc suite au 16 mars 2020 où c'était le début de la pandémie du Covid et qu'on avait dû fermer du jour au lendemain tous nos restos. On s'était retrouvé vraiment la tête dans les chaussettes et cette situation complètement surréaliste. Et donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre? On n'avait pas du tout envie de rester assis sur notre chaise et d'attendre que ça passe. Et donc, la première idée qui nous est venue en tête, en fait, de manière très instinctive et très très terrain, c'était de dire, OK, on va prendre nos restaurants et on va les transformer en traiteurs italiens et on fera du click and collect et on fera de la livraison. Et donc Napoli Gang est né un peu de cette idée-là. On a continué à maintenir justement ce lien et cet écosystème avec tous les petits producteurs avec qui on bossait quand les restaurants étaient ouverts. Et en fait, ça a bien fonctionné puisque on proposait à la fois nos antipastilles, nos produits, des gratins de pâtes et pas mal de pizzas. Donc l'offre était assez concentrée sur la pizza. Et puis on a commencé à faire ça, en mode click and collect. Et puis dans un second temps, on s'est dit on peut aller encore plus loin et on va tester quelque chose qu'on s'était toujours refusé de faire, c'était de la livraison. Et parce que en fait, par sentiment de méconnaissance et puis parce que ça nous bottait pas trop au départ, on s'était toujours dit ouais, c'est très compliqué de faire de la qualité quand on fait de la livraison, c'est pas un marché qui est très porté là-dessus et donc on va tester, on va regarder ce qu'on peut sortir. On a fait énormément de R&D les premières semaines là-dessus. On a ajusté nos recettes de pizza, on a testé nos pâtes fraîches en livraison, on a testé un milliard de trucs et on a fait pas mal de choix, dont certains très structurants, puisque on a décidé par exemple de pas faire de pâtes fraîches en livraison, ce qui était quand même le cœur de notre offre, un des cœurs de notre offre chez Big Mama, tout simplement parce que après ces milliards de tests, on avait le sentiment qu'on n'arrivait pas à faire la qualité qu'on voulait. Et donc on s'est concentré sur la pizza où on avait trouvé une recette très authentique, toujours très italienne, très authentique, mais un petit peu adaptée par rapport à ce qu'on faisait dans nos restaurants pour pouvoir la livrer chez nos clients et que ça marche. Et on a proposé des gratins, beaucoup de gratins, parce que c'était quelque chose qui voyageait bien et qui se réchauffait à la maison de manière très facile. Et donc on a fait des parmigiana, on a fait des lasagnes, on a fait des gratins de pâte à la truffe, voilà. Et évidemment tous nos produits, notre charcuterie, nos bonnes charcuteries, nos burrata, etc., etc. Et on a fait ça, on était encore confinés, et on s'est aperçu que déjà ça marchait, ce qui était quand même super cool. Les clients avaient joué le jeu et ils nous faisaient confiance, et ça c'était quand même génial. Et deux, qu'on avait des super retours sur la qualité de ce qu'on faisait. Et c'était vraiment le parti pris qu'on avait eu. Le truc, c'est on ne fera de la livraison que si on pense qu'elle est à la hauteur de la qualité de ce qu'on a pu délivrer depuis le début du projet Big Mama, et qu'on continuera à le faire dans le temps. Donc on avait un peu en tête le fait que les acteurs qui étaient sur ce marché-là correspondaient pas tout à fait à la vision et au projet qu'on avait envie de faire sur la très bonne cuisine authentiquement italienne, faite 100% maison, avec des super bons produits, etc., etc. Et donc, pour être honnête, on s'est jamais posé la question chez Big Mama, avant le confinement, avant le Covid, de faire de la livraison. Pour nous, c'était un truc qui était complètement à part. C'était un marché qui était très industriel, qui était très porté sur la commodity et pas du tout sur le plaisir ou la qualité. Et quand on a fait ces premières semaines d'expérience, on s'est dit, mais en fait, c'est génial. Ce qu'on a fait il y a 5 ans, ou 6 ans, ça fait 6 ans et demi maintenant qu'on a ouvert Ismama, ce qu'on a fait il y a 6 ans avec les trattoria, c'est-à-dire avec nos lieux physiques, on y est allé avec une ambition de démocratiser la bonne cuisine italienne authentique dans des trattoria dans le centre de Paris. En fait, on pouvait tout à fait avoir ce même projet, cette même ambition dans la livraison.
Et du coup, ça a eu un tel succès que vous avez créé aussi des cuisines spécialisées pour Napoli Gang. Maintenant, c'est plus dans les restaurants, si ?
Alors, on l'a fait en deux temps. On a évidemment utilisé nos restaurants quand ils étaient fermés pour faire de la livraison. Donc tous les restaurants, quand ils étaient fermés, à la fois pendant le premier confinement, mais aussi pendant le deuxième confinement, qui a été celui qui a été le plus long, hein, quand on a refermé du 1er novembre à quasiment mi-juin, là, on pouvait plus opérer nos restaurants en France. Et donc tous nos restaurants étaient devenus des cuisines pour Napoli Gang. Donc on a à la fois utilisé ça, et en parallèle, puisqu'on savait qu'on voulait pérenniser notre offre et qu'on avait une vraie clientèle qui était demandeuse et qu'on commençait à être de plus en plus fiers du produit qu'on sortait, on s'est dit qu'on allait effectivement créer des cuisines qui étaient dédiées à cette offre-là, donc à Napoli Gang, qui sont pas du tout des, parce que je veux je veux déstigmatiser complètement ce métier-là. C'est loin d'être des dark kitchens comme on peut l'imaginer ou comme l'appellation peut l'envisager. On a ouvert que des kitchens qui étaient sur rue, qui étaient totalement transparentes aux yeux de l'extérieur. Donc on a quasiment 100% de nos cuisines. On voit ce qui se passe à l'intérieur. Elles sont sur rue. On travaille pas du tout dans des trucs cachés, dans des trucs qui sont au sous-sol ou je sais pas quoi, comme il y a pu y avoir. Hein. Je dis pas que c'était pas justifié. Mais en tout cas, nous on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix de la transparence et aujourd'hui on travaille sur des cuisines qui ont ce qu'on appelle des shopfront, donc qui ont des devantures sur la rue sur lequel on met du design, sur lequel on essaie vraiment d'apporter aussi une part d'expérience dans ces cuisines-là. Ça, c'est très important pour nous.
Et aujourd'hui, si je commande une pizza Napoli Gang ou si je vais dans un restaurant Big Mama pour manger la même pizza, est-ce qu'elles vont être différentes ou ça va être les mêmes?
Oui, alors elles vont être un peu différentes. Les points communs entre les deux, c'est que un, c'est des pizzas italiennes avec un savoir-faire italien. On a quasiment 100% de staff de pizzaiolo italiens qui ont un vrai savoir-faire et une connaissance de l'art de la pizza qui est fait 100% minute, 100% sur place. Le deuxième point commun qui est aussi très important, c'est la qualité des produits. Ce sont totalement les mêmes produits qu'on met dans les deux offres. Et ensuite, ce qui est différent, c'est que vous n'allez pas retrouver exactement la même recette de pizza entre une pizza napolitaine qu'on fait dans nos restaurants, c'est-à-dire avec des cornichons qui sont assez épais, très très alvéolés et une pâte très fine au centre. Là, on a travaillé sur une version italienne d'une pizza qui voyage mieux sur Napoli Gang, qui est légèrement, qui est plus croustillante, qui est un petit peu plus épaisse en son centre, qui reste avec les mêmes attributs de produits, de farine, de lévitation, mais qui est tapé sur le marbre un petit peu différemment et où la recette est légèrement différente. On a fait des essais. On a livré à 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. On a regardé ce qui se passait. Et puis, on a ajusté jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bon niveau de lévitation, etc. Enfin, surtout sur toutes les dimensions de la recette, sur toutes les dimensions de la cuisson. Mais ça nous a pris facilement les deux mois du premier confinement pour caler le produit qu'on voulait sortir.
Et c'est quoi la suite de l'aventure?
Déjà, on va pas arrêter notre service parce qu'on nous a effectivement souvent demandé avec la reprise des restaurants et qu'est-ce qu'on allait faire. On a continué et on va continuer. Et les premières semaines de réouverture des restos nous montrent qu'en fait c'est drôle. C'est des expériences de moments qui sont pas les mêmes. Donc on a pas du tout vu de cannibalisation entre les deux. C'est deux expériences qui sont très complémentaires. On a encore un peu de mal à dire si c'est des clients qui sont communs à notre expérience de restaurant et de livraison. On manque encore un petit peu de recul là-dessus. Mais en tout cas, donc
depuis la réouverture des restaurants, il n'y a pas eu moins de livraison de pizza.
Non, nous on a été très stable. Et on a continué à très bien fonctionner. Et puis en parallèle de ça, donc ça c'est sur l'existant, et en parallèle de ça, probablement de continuer à essayer de développer un peu notre service dans d'autres territoires où on n'est pas encore, et notamment en France. Mais on est au tout début de cette aventure, donc on est encore beaucoup la tête dans nos opérations et dans faire en sorte qu'on sorte le meilleur produit au meilleur prix possible.
J'ai une dernière question, plus globale. D'après toi, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé pour le monde de la restauration?
Mes convictions, c'est les suivantes. Un, je pense que la crise n'a pas du tout tué la restauration, et encore moins la restauration classique, traditionnelle. On a vu beaucoup d'articles, on a vu beaucoup de débats autour de la crise et l'essor de la livraison, ça va tuer la restauration, ça. Je suis pas du tout convaincu de ça, et je pense que le fait justement d'avoir été privé de ça pendant un an nous a remis totalement en pleine conscience du besoin social et d'expérience et de vie dont on a besoin au travers des restaurants physiques, au travers des restaurants et de l'expérience qu'on donne sociale, de se retrouver assis autour d'une table entre amis, entre familles. Donc j'ai dit ça souvent à mes équipes dernièrement et je suis vraiment confiant pour vous le dire aujourd'hui. J'ai jamais été autant confiant dans Big Mama et dans la restauration classique qu'aujourd'hui. C'est un total paradoxe parce qu'on sort de la plus grande crise qu'on a jamais connue de la restauration depuis un millénaire, mais j'ai pas du tout perdu la foi là-dedans et d'ailleurs la réouverture nous prouve par pas mal d'aspects. On a réouvert en Angleterre, on a jamais fait des chiffres aussi bons et on n'a jamais vu autant de fréquentation en Angleterre. On a eu un retour des clients absolument considérable. En France, la reprise s'est plutôt quand même vraiment bien passée. Elle a été un tout petit peu plus calme qu'en Angleterre, mais parce que il y a eu des ramp-up, il y a eu un scénario d'ouverture qui a été un peu plus difficile, mais bon, les gens viennent, les gens sont là, donc j'ai pas du tout peur pour notre avenir en tant que restaurateur et en tant que marché. Deux, je pense que la notion effectivement de plaisir social et d'expérience va être d'autant plus forte dans les années à venir. On va aller au restaurant parce qu'on a besoin de vivre quelque chose. Alors évidemment, ça passe avant tout par la nourriture, par la qualité de ce qu'on met dans l'assiette, par la qualité, l'expérience de ce qu'on met dans l'assiette. Donc ça ne veut pas du tout dire qu'on s'affranchira de ce qu'il y a dans l'assiette. Au contraire, mais je pense que l'expérience au global de ce qui va se passer au-delà de l'assiette, de l'atmosphère, du design, de l'âme, de la personnalité qu'on va pouvoir mettre dans un lieu, elle va être d'autant plus importante dans le futur. On va être face à tellement de services qui sont tellement parfaits, tellement efficaces. On peut pas compiter contre une livraison d'un truc d'Amazon. On est des petits kiki à côté. Donc notre seul moyen de compiter par rapport à ça, et je pense que justement on sera mille fois plus fort grâce à ça que eux, c'est notre capacité à apporter de l'âme et de l'authenticité. Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est les émotions. On est là pour offrir un moment d'émotion. Ça, c'est notre définition de restaurateur. Et c'est très difficile de le faire dans un service de livraison. C'est très difficile de le faire à distance. Et donc, c'est cette âme et cette authenticité, si on arrive à la mettre aux côtés d'un produit où on partage des émotions, on fait vivre des émotions, on procure des émotions, là, on aura gagné. Là, on sortira la tête vers le haut de cette crise, de ce moment juste affreux qu'on vient de subir.
Merci Tigrane.
Ben, avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Vous pouvez retrouver les dernières saisons d'Apoil sur le site apoil-lepodcast.com et restez à l'écoute, la saison 5 commence dans 2 semaines.